L'autre jour, je discutais avec une élève dans mon cours de conversation Le Café Français, que d'ailleurs je vais bientôt rouvrir, et je pense que tu vas très probablement te reconnaître dans ce qu'elle a partagé avec moi. Elle me parlait de cette sensation très désagréable qu'elle avait eue pendant très longtemps, surtout avant de rejoindre mon cours, et c'était une sensation un peu difficile à définir en un seul mot. Elle avait l'impression d'être bloquée en français, elle avait l'impression de ne plus progresser, même si elle pratiquait quand même régulièrement. Ce qui était aussi très étrange avec cette sensation, c'est qu'elle avait déjà un niveau intermédiaire, donc elle comprenait tout ou presque tout. Par exemple, quand elle lisait, elle pouvait comprendre, elle pouvait lire des livres en français sans aucun problème, ou elle pouvait aussi écouter des podcasts ou même des personnes, donc des natifs, parler à une vitesse normale. Mais au moment de parler, son vocabulaire était toujours très basique et elle n'arrivait pas à parler français naturellement et couramment. Elle avait une sensation un peu d'inachevé en français, elle n'avançait plus en français. Et cette sensation assez désagréable qu'on peut avoir quand on arrive surtout au niveau intermédiaire a un nom. Et oui, c'est un phénomène qui s'appelle en anglais le learning plateau. Je le dis avec mon super accent français. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le plateau d'apprentissage, une sensation de stagner où on n'avance plus et c'est vraiment linéaire et on ne voit plus aucune progression. J'ai appris 7 langues, j'en parle 4 couramment et le plateau d'apprentissage ou le learning plateau, je l'ai vécu plusieurs fois. Si toi aussi tu as l'impression qu'il te manque ce je ne sais quoi pour progresser en français et que tu aimerais savoir quoi, vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour progresser en français et ne plus avoir cette sensation désagréable d'inachevé, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ai créé une toute nouvelle masterclass totalement exclusive que je n'ai jamais donnée avant, dans laquelle je t'explique pourquoi tu as l'impression de ne plus progresser et je te donne tous mes secrets pour déplacer ce plateau. Cette masterclass dure 1 heure, c'est en français. C'est gratuit, c'est en ligne et c'est en direct avec moi et je répondrai aussi à tes questions à la fin de la masterclass. Il y a 3 dates et le contenu est le même dans les 3 masterclass. Donc il y a une masterclass le mardi 23 avril à 20h heure de Paris, une autre le jeudi le 25 avril 17h heure de Paris et la dernière c'est le jeudi 2 mai à 17h. Donc, si tu ne peux pas me rejoindre en direct, pas de panique, je t'envoie le replay et pour ça tu dois t'inscrire à une des 2 premières masterclass. Donc inscris-toi pour mardi 23 ou jeudi 25 et je t'envoie le replay. Mes élèves adorent mes masterclass, il y a toujours une ambiance de folie, c'est vraiment une fête et tu apprends énormément de choses. Je sais que toi aussi tu vas l'adorer et tu vas surtout débloquer plein de choses pour continuer à progresser en français et dire enfin et une bonne fois pour toutes adieu au plateau d'apprentissage. Pour t'inscrire, c'est facile, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecyasmine.com/MC, donc de masterclass MC, lefrançaisavecyasmine.com. Attention, le français c'est avec un C, pas avec un C, c'est dit, lefrançaisavecyasmine.com/MC de masterclass, lefrançaisavecyasmine.com/MC. J'ai trop hâte de te retrouver dans une des masterclass la semaine prochaine. lefrançaisavecyasmine.com/MC. Bienvenue sur le podcast Le Français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le Français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Dans cet épisode, mon invitée s'appelle Kerstin. C'est la podcasteuse du podcast The Fluent Show. et c'est aussi la fondatrice de fluentlanguage.co.uk. Kerstin est une source d'inspiration incroyable. Je l'ai contactée pour être l'invitée de mon podcast car je sais qu'elle parle français. Donc ça aussi, c'est une première chose. Et donc, je voulais absolument faire l'interview en français. Mais son podcast m'a énormément aidée dans mon apprentissage des langues. Elle a des projets qui sont vraiment extraordinaires. Et je voulais absolument partager son projet avec toi. Elle parle français, ce n'est pas sa langue maternelle. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a commencé à apprendre le français et comment elle étudie les langues étrangères. Est-ce qu'elle étudie plusieurs langues en même temps ou est-ce qu'elle étudie des langues séparément? La réponse est dans cet épisode. En plus, elle partage aussi son point de vue sur les femmes dans le monde des langues étrangères. Et vraiment, tu vas adorer cet épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, c'est une interview et mon invité est Kerstin de Fluent Show, qui est un podcast sur les langues étrangères. Et Kerstin est aussi la fondatrice de fluentlanguage.co.uk. De toute façon, les liens de ces informations seront dans les notes de cet épisode. Salut Kerstin!
Salut Yasmine! Merci!
Comment ça va?
Je te disais, il y a 5 minutes, je suis assez nerveuse parce que je parle pas le français tous les jours, mais je suis aussi très heureuse de te parler.
Magnifique! Ton français est très bon, je l'ai déjà entendu. Et après, c'est bien d'être modeste aussi. Je suis assez fière de t'avoir comme invitée dans cet épisode. Kerstin, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter?
Oui. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Kerstin ou Kerstin ou dites-la comme vous voulez. Kerstin, je viens d'Allemagne d'origine et je vis en Angleterre et je travaille dans toute façon avec des langues. Ma profession, comment je le dis, c'est language coach, alors coach de langue pour les apprenants indépendants. Et j'ai commencé il y a 10 ans avec un blog, avec être tuteur de l'allemand, de la langue allemande. Et puis, les choses se sont développées. Et maintenant, je parle de plus des méthodes, des stratégies, des idées, de la manière à penser et comment se préparer pour apprendre une langue bien.
Excellent. Et tu as commencé en donnant des cours d'allemand, c'est ça? Des cours particuliers?
Non. J'ai fait un flyer et je te dis, avant de commencer ce travail en ligne, j'étais international officer dans une université en Angleterre. Il y avait beaucoup de voyages, il y avait beaucoup de stress aussi, beaucoup de pression. Et j'avais une épisode un peu lourd dans ma vie. Et je pourrais pas continuer avec ce travail. Eh bien, j'avais aucune idée vraiment que faire du tout. Et je commençais à penser, what can I do? Qu'est-ce que je peux faire? et je pensais que, donner des cours en allemand, ça serait peut-être un peu intéressant, pas facile, mais légère pour moi, tu comprends? Et je fais les flyers, et sans penser en plus, j'ai fait les flyers à Lancaster, ma ville en Angleterre, et j'ai mis, si tu voudrais apprendre l'allemand, alors, apprends l'allemand avec moi. Et ça, c'est comment j'ai commencé. Comment beaucoup d'autres tuteurs en ligne, beaucoup d'autres profs indépendants qui donnent les cours. Et ça c'était pour moi une éducation très intéressante. Et j'ai entendu très vite les choses que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants les manières dans lesquelles je voudrais travailler. Et j'ai aussi entendu très vitement les choses que me donne la haine.
Ah oui, absolument. Tu sais que j'ai commencé de la même manière aussi, hein, avec les cours de français. C'était à l'époque, j'avais pas de site internet. C'était avant Instagram, avant Facebook, avant YouTube. Et donc, moi aussi, j'ai mis un peu des petites annonces avec des cartes de visite un peu partout dans les cafés. Moi, j'ai commencé à Madrid, en Espagne. Et puis après, j'ai développé aussi à Bruxelles, en Belgique. Et jusqu'au moment où j'ai décidé de créer un site internet et tout ça. Mais j'ai commencé aussi un peu de la même manière pour les cours de français. Je sais ce que c'est.
Oui, au début, il n'est pas vraiment possible de décider la spécialisation ou la niche que tu veux choisir. Je pense que ça, c'est l'expérience dans le monde réel qui nous donne... Qu'est-ce que c'est, insights?
Une vue d'ensemble.
Des perspectives que, dont on a besoin.
Absolument. Kerstin, tu parles combien de langues?
Est-ce que je parle français? Je ne suis pas sûre. Okay.
Oui, avec le français.
Avec le français. Je dis que je parle couramment ou assez couramment quatre langues, l'allemand et l'anglais, ça c'est, ils sont le niveau très, très haut, très naturel pour moi, parler allemand et parler anglais. Le français, ça se débrouille assez bien. Et le gallois aussi. Et je peux aussi comprendre beaucoup de choses et dire beaucoup de choses avec plus de fautes en italien et espagnol. Et parce que je viens de la Moselle en Allemagne et j'ai grandi avec ma grand-mère et toute ma famille, on parlait avec le dialecte, parler en dialecte local. Je comprends aussi le luxembourgeois et je peux répondre en dialecte et les luxembourgeois, ils peuvent comprendre ce que je dis. Alors, je ne parle pas vraiment le luxembourgeois, mais je parle dirty luxembourgeois. Et j'ai joué avec des autres langues. Alors, c'est impossible de donner une réponse courte pour moi. Quatre.
Exact.
Peut-être quatre. Peut-être quatre, peut-être six. J'ai joué ou fait des choses avec 10 langues. Mais ça, le nombre, c'est pas important. Est-ce que c'est important pour toi?
Non, moi j'ai dit que j'ai étudié cette langue et que j'en parle quatre couramment. Mais que j'en ai, voilà, j'ai touché trois autres langues que je ne maîtrise pas très très bien. Et donc, mais je dis que voilà, que je les ai étudiées à un moment donné dans ma vie, mais que j'ai pas été jusqu'au niveau intermédiaire que pour les garder. Donc il faudrait que par exemple, pour les cours de néerlandais, donc j'ai appris le néerlandais pendant très longtemps, j'ai eu un niveau intermédiaire mais plutôt A2 et j'ai jamais vraiment pris le temps de vraiment me concentrer pour arriver jusqu'au niveau B1, B2, parce qu'en fait tout simplement j'étais pas motivée, donc c'est une langue dormante, elle est là mais je la maîtrise pas.
Oui, c'est mon espagnol, je crois, peut-être. Oui,
voilà, donc elle est là, mais pas très active. Mais si je la réactive, je pourrais comprendre, mais je ne pourrais pas écrire correctement, par exemple, et ce serait un peu difficile. Je pourrais parler, mais je ferais plein de fautes.
D'accord, d'accord. Donc, et toi, tu es belge ou française?
Les deux.
Ah!
Les deux, oui. Donc, parfois, c'est un peu confus pour certaines personnes. Donc, je suis née en France. Et donc, en France, c'est le droit du sol. Quand tu es née en France, tu es automatiquement français. Ma mère est française, d'origine algérienne. Et mon père est belge. Donc, quand je suis née, mon père a fait une demande auprès de l'État belge pour que je puisse avoir aussi la nationalité belge. Et après, j'ai grandi à Bruxelles.
Ah, c'est très intéressant, oui.
Donc, oui, franco-belge. Je voyage avec les deux passeports. J'ai habité en Belgique, j'ai habité en France. Donc, j'ai vraiment les deux nationalités, les deux cultures. Après, ma cuisine préférée, c'est la cuisine belge. Désolée, les Français.
C'est quoi les cuisines belges, des frites?
Alors, et, voilà, pour moi, les meilleures frites du monde, elles sont en Belgique. Il n'y a
oui,
pas...
C'est ça.
la meilleure mayonnaise aussi, elle est en Belgique, elle n'est pas en France, ou elle n'est pas aux Pays-Bas ou en Espagne. Ensuite, la cuisine belge, ça va être, bah, par exemple, des moules quand c'est la saison. Après, il y a du vol au vent, il y a des carbonades à la flamande, les asperges à la flamande aussi quand c'est la saison. Beaucoup de plats en sauce aussi, donc forcément pour l'opération bikini, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a aussi des plats avec beaucoup de fromage, beaucoup de fritures, par exemple des croquettes aux crevettes, des croquettes au fromage, qui sont extraordinaires. Franchement, quand il fait froid, c'est trop bon. C'est comme la température qu'il fait maintenant. Je sais pas comment il fait chez toi, mais en tout cas là, pour l'instant à Paris, des croquettes au fromage, ça aurait été parfait.
Oh, ouais, je visite souvent Bruxelles parce que je vis en Angleterre et nous voyageons. Je voyage avec mon mari et nous allons à l'Allemagne pour rendre à la maison chez moi en Allemagne. Et beaucoup de fois, nous allons faire pause en Bruxelles.
Ah, très bon choix.
La prochaine fois, on pourrait se rencontrer.
Ouais, trop bien. D'ailleurs, c'est très bien de faire des petites pauses à Bruxelles parce qu'en plus, tu peux en profiter pour pratiquer ton français.
Oui, et il y en a un petit besoin.
Non, ton français est extraordinaire.
J'avais quitté dire ça.
Justement, je voudrais savoir, j'aimerais connaître un peu ton parcours avec la langue française. Quelle est ta relation avec la langue française? Comment ou quand as-tu commencé à apprendre le français?
Ah! Bon, j'ai commencé dans un environnement formel. Formel, c'est quoi? Dans la classe. J'ai commencé quand j'avais 13 ans au gymnasium, lycée en Allemagne. Et j'avais le choix, est-ce que tu veux faire le latin ou est-ce que tu veux faire le français? Et en ce temps, en ce épisode, j'ai pensé que je voudrais commencer à parler une langue vivante. Et après ça, j'ai vraiment étudié aussi le latin et je suis tombée vraiment amoureuse avec le latin, mais avec le français, quand j'avais 13 ans, ça me donnait l'impression plus intéressante. Avant ça, je dirais que j'avais déjà beaucoup de contacts avec le français. Parce que je suis grandie très près de la France et le Luxembourg. Mais ça serait la première fois que j'ai étudié le français. Et il y avait des problèmes avec ma prof. Elle n'était pas trop intéressante, je pensais. Néanmoins, ça m'a plu, right? I enjoyed.
Oui,
j'avais beaucoup de plaisir en apprendre le français parce que j'aime apprendre des langues, n'importe quelle langue. Et j'ai continué le français. J'ai pris des cours intensifs à l'école en anglais et français. Et j'ai fini mon abitur. Et après l'abitur, je voudrais faire plus des choses avec mes langues. J'avais fait à l'école, mais mon lycée était, ce n'était qu'un lycée en countryside, mais c'était une école très bien, très bonne. Et pour moi, avec des langues, il y avait une situation que dans laquelle j'avais l'opportunité d'apprendre l'anglais et le français, mais aussi l'italien un peu, et aussi le latin. Et après l'école, vraiment, j'ai su, I knew, right? Je savais que j'aime apprendre des langues et je voudrais continuer avec des langues. Et la question se pose, what are you going to do with that? Qu'est-ce que tu vas faire avec des langues? Oh, il faut un boulot. OK, que faire? J'ai commencé une éducation de secrétaire trilingue. Et ça, c'était la première fois que j'avais des profs qui viennent de la France, qui sont des native speakers. Mm-hmm. Et pour moi, c'est pas très important de trouver un native speaker. J'avais des profs allemands qui m'ont donné vraiment beaucoup toute la passion pour l'anglais. Mais ces profs dans cette école de secrétaire...
Tu peux tout dire, Kerstin. Il n'y a pas de filtre chez Allen French ou dans le podcast Le Français avec
Kerstin. C'était la première fois que j'ai rencontré des personnes qui parlent français et qui viennent de France, qui sont aussi, qui ont un sens de humeur que j'ai compris et qui me donné le plaisir. C'était amusant apprendre français. Et ça, c'était la première fois après 6 ou 7 ans, parce que je suis assez déterminée. Mm-hmm. Je peux parler contre les obstacles. et je savais toujours que je voudrais parler des langues et j'aimais la langue, mais les cours, ça n'était pas amusant. Et ça n'était pas beaucoup de plaisir. Et dans cette situation, cette école, c'était la première fois qu'il y avait une personne qui fait des blagues en français. Parce que les Allemands, les profs allemands qui me donnaient les cours en français, ils n'avaient pas un grand sens d'humeur. Et c'est pas une chose allemande. mais juste ces deux, il n'y avait pas de... tu sais, avec tous tes étudiants, tu dois avoir un son de, je dois dire en anglais, connection et connexion. Trust. Connexion et
confiance.
C'est quoi? Et confiance. Ça, c'est si important. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, non, très important. Sorry. Ça, c'est très important. Et ça, c'était la première fois. Et après ça, pardon, long story, j'ai continué. Et j'ai continué le français aussi après j'avais transféré à l'université en Angleterre. Et c'était très intéressant apprendre le français soudainement, pas de la base de l'allemand, mais de la base de l'anglais avec les étudiants à l'université anglaise. Et je dois admettre, en ce temps, à cette époque, j'ai pensé, OK, mon français n'est pas trop mal, parce que tous les Anglais qui viennent d'avoir passé un an entier en France, je parle comme eux.
Ouh.
Oui, et ça, c'était très différent. Bon, j'ai fini une licence, j'ai un bachelor's en français et l'anglais comme langue étrangère aussi.
Excellent. Et Kerstin, est-ce que tu as déjà habité en France?
Jamais. J'ai visité la France, mais pas habité en France. J'ai habité seulement en Allemagne et en Angleterre.
Oui, mais ton français est très bon pour une personne qui n'a pas habité en France. Donc, c'est absolument pour ça que je voulais t'avoir dans ce podcast, que tu es la preuve qu'on peut apprendre et parler français sans habiter dans une ville ou un pays francophone. C'est tout à fait possible.
Oh, c'est entièrement possible. Oui, tu as raison.
J'ai énormément de questions pour toi, Kerstin. Comment tu fais pour rester motivée à continuer à apprendre le français ou à pratiquer? Qu'est-ce que tu fais en général pour rester motivée?
Avec le français en particulier?
Tu peux faire avec d'autres langues, mais moi, je suis égoïste, je préfère le français.
Alors, pour moi, j'ai une langue principale que j'apprends, et ça, c'est le gallois, le Welsh. Mais ma langue secondaire, ma langue aussi importante, mais pas assez active, c'est le français. Et quand je prends les cours en groupe, en gallois, des cours assez traditionnels, en groupe.
Et pour le français, qu'est-ce que tu fais?
Ah oui, oui. Et il y a des pauses. Il y a des pauses d'été, il y a des pauses de Noël et des choses comme ça. Et dans ces pauses, ça c'est mon opportunité pour me rendre compte que je suis assez rouillée en français. Et après ça, je prends des cours avec les tuteurs, avec des
professeurs.
C'est quoi tuteur?
Professeur ou prof particulier?
Des profs en ligne. Alors, je prends quelques classes en ligne, je pratique, je lis en français et j'ai fait beaucoup les choses très, moins intensives. Mm-hmm. Par exemple, les apps, je les fais souvent en français. Pas en gallois, je les fais en français. Parce que je sais qu'il y a une base pour moi en français et j'ai la confiance que cette base ne veut pas disparaître.
Oui, elle est assez
jamais.
Forte.
C'est assez forte. It's enough. Et c'est assez. Et pour ce raison, je peux savoir que revisiter mon français, ça va toujours marcher et j'ai besoin d'une semaine ou deux semaines de pratique, et après ça, je me vais sentir assez confiante.
Oui, oui. Bah, surtout qu'en plus, le plus important, tu as fait le plus difficile hein, en français, donc tu es à un niveau B1, j'imagine, donc toute la grammaire française, quand tu l'étudies vraiment très sérieusement, tu le fais une fois pour toutes dans ta vie, et puis après, tout ce que tu fais, même si tu fais des pauses, c'est que de la révision. C'est que réchauffer un petit peu ce que tu as déjà appris, mais tu ne recommences pas à zéro. Par exemple, aujourd'hui, tu ne vas jamais apprendre le passé composé ou faire une révision sur les temps le présent, par exemple, parce que tu le connais, tu l'as déjà appris.
Oui, c'est ce que je crois.
Non.
Alors, c'est un peu... Mon français, c'est un peu comme se sentir comme un... J'ai pas les mots.
C'est pas grave.
Je dois faire comme si je pourrais parler le français. Et bien, je vais parler le français.
Ah mais, bah oui, prétendre.
Et j'ai pas... Prétendre. Pretend. Mais j'ai pas peur. Et j'ai un petit peu peur sur le podcast maintenant, mais pour avoir des cours en ligne, pour seulement avoir une conversation, pour pratiquer, ça c'est pratiquer, c'est pas la performance, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pratiquer. Et moi, ça me donne beaucoup de plaisir pratiquer.
Exactement, oui, plus on pratique de toute façon, plus on est à l'aise. On stresse surtout quand on fait des pauses et qu'on ne parle pas du tout et puis après on essaye de parler parfaitement. Il y a aussi une très grosse pression quand on se compare avec sa langue maternelle. Donc forcément, dans notre langue maternelle, on parle super bien, on est hyper intelligent et toutes ces choses-là. Dans une autre langue, parfois c'est un peu plus difficile, mais il faut accepter que ce soit pas identique et aussi intelligent que dans notre langue maternelle, et après ça ira bien.
Et mais je me rends compte, je suis très honnête avec moi-même, que ça ne va pas me faire beaucoup mieux en français. Ça c'est seulement pour garder la base. Et si je voulais améliorer mon français beaucoup, je sais très très bien que il me faudrait faire beaucoup plus de travail. Et ça, c'est fair. C'est égal.
Qu- Kerstin, je sais que tu avais un podcast que j'adorais ton podcast, The Fluent Show, il était vraiment extraordinaire, tu l'as arrêté récemment, mais tu as fait plein de choses autour de ce podcast et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce que forcément, c'est, pour moi, je trouve que c'est un parcours super inspirant, le podcast que tu as créé. Et aussi, peut-être après, Women in Languages, parce que tu vois, la place de la femme aussi dans les langues, elle est un peu spéciale. Mais d'abord, le podcast. Mm-hmm. Raconte-nous.
Alors, qu'est-ce que tu veux savoir en particulier?
Ah, toi aussi, tu as un chat. Moi aussi, j'en ai deux. J'entends ton chat.
Ah, j'avais un chat. J'avais une chatte. Mm-hmm. Yeah, petite Abigail, et tu l'as entendu sur le podcast aussi.
Mm-hmm.
Et ça, c'est très, pour moi, c'est les, it's adorable, c'est mignon.
C'est mignon ou adorable.
Adorable, oui. Adorable. J'aime beaucoup les chats.
Oui, alors bah, le podcast, comment tu as décidé de lancer ton podcast autour des langues? C'est une mine d'or d'informations sur les langues étrangères. Moi, j'adore ce podcast.
Alors, quand j'ai commencé le podcast, c'était pas le Fluent Show, c'était le Creative Language Learning Podcast, un nom trop long, je ne recommande pas. Et pour moi, j'adorais déjà des podcasts. Et mon mari, il est un petit peu nerdy, et il aimait les podcasts. Alors, tous les deux, entre nous, dans notre maison, on écoute toujours des podcasts, toujours, tous les jours et toutes les heures. Et quand j'ai commencé, c'était comme jouer avec le blog. Et j'avais fait, je me souviens, un interview avec un homme américain, Mickey Mangan, qui a fait un projet très intéressant d'apprendre l'allemand en Allemagne. Et il y avait un YouTube vidéo. Et nous avons parlé, nous avons fait interview. Et après l'interview sur Skype ou Zoom, quelque chose comme ça, j'ai fait des notes et j'ai fait un article de blog avec ces notes. Et très fière, je l'ai envoyé à lui et dit « Oh, voici, c'est toi !» Et il m'a dit « Right, you made me sound British. Tu m'as donné la voix britannique. » Et j'ai pensé « ok, je comprends, parce que mes notes sont écrites dans mon propre style. » Moi, je vis en Angleterre, je parle anglais comme une Britannique, comme une Anglaise. Et j'ai pensé, ok, que faire? Comme ça serait bon.
Mm-hmm.
Comme
bien.
Ça serait bon. Si nous avions.
Mm-hmm.
Merci. Si nous avions un propre interview et il peut avoir son propre voix.
Mm-hmm.
Pas ma voix anglaise, mais son propre voix. Et j'ai essayé de nouveau et j'ai dit, ok, enregistrer la conversation, enregistrer le Skype. Et quand je l'ai mis dans mon blog, il m'a dit, le système, l'ordinateur m'a dit, ah, est-ce que tu veux commencer un podcast? Et j'ai pensé, you know what, tu sais, oui. Bon, j'ai commencé un podcast. Et ça c'est comment le podcast avait commencé. C'était pas trop professionnel, c'était comme un jeu pour moi. C'était seulement le plaisir. Et dans les années... après ça, j'ai commencé, je suis devenue de plus en plus professionnelle. Depuis 2017, je crois, j'ai changé le nom, j'ai changé le branding, c'est les petites images. Et nous sommes devenus le Fluent Show, et ça c'était un peu plus professionnel, mais pour moi, c'était encore très important garder ce son de jeu, ce son de plaisir et ce son de légèreté. Non.
Légèreté, légèreté.
Légèreté. Ce son de légèreté. Parce que, et puis, quand tu me dis que tu adores le Fluent Show, j'espère que c'est aussi parce que le Fluent Show, c'est un podcast que tu peux écouter même si tu n'es pas trop sérieuse. Parce que c'est apprendre des langues, c'est pas la politique ou quelque chose comme ça. C'est légère et pour moi, c'est important de donner les gens beaucoup le démystifier. Tu sais?
Oui. Et en plus, moi, ce que j'aimais beaucoup avec ton podcast, c'est que déjà, t'es une femme, parce que sur les podcasts, pour apprendre les langues ou pour devenir polyglotte et tout ça, en général, sur le marché, c'est que des hommes qui font les podcasts. Et donc là, le fait que ce soit une femme qui fasse aussi un podcast, j'ai trouvé ça super inspirant.
Oh, merci. Oui. Well, je veux dire, well, bon.
Bon.
Bon. j'avais toujours l'impression, dans notre champ, qu'il y a, parce que apprendre des langues, ça s'est associé, right? On pense à l'intelligence, l'expertise et des choses comme ça, la maîtrise. Et ces sujets, ces mots sont réservés dans notre société de plus pour les hommes et pour moi. Et je sais aussi que comment je me sens quand un homme me donne toutes ses opinions experts et moi, je ne voudrais pas les écouter. Je voudrais pas les écouter. Not every time.
Oui, de temps en temps.
De temps en temps, je voudrais écouter, bien sûr. Mais pour moi, c'était aussi important de représenter que comme une femme, tu peux être intelligente, tu peux être, tu as la liberté et tu as le droit de pratiquer et tu as aussi le droit d'être imperfecte.
Oui.
Oui, absolument. Et parce que les femmes, nous voulons toujours achever beaucoup et nous voulons toujours, ok, I've never said this in French. Donne-moi un instant.
C'est bien, les amis, en direct, donc Kerstin pratique son français. Et en plus, moi, je dis toujours à mes élèves, quand c'est difficile à exprimer en français, ça veut dire qu'on apprend quelque chose. Donc, vas-y, prends ton temps.
Oui, je suis en train d'apprendre. Alors, comme une femme, on a, dans la société ici, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on a qu'on doit prouver.
Prouver, exactement.
Ah, oui, tu sais. Et moi, je ne suis pas la personne avec la présentation immaculée. Je ne suis pas la personne qui parle toutes les langues parfaitement. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est apprendre. Et ce qui m'intéresse, c'est commencer à faire des choses difficiles et faire des choses qui sont intéressantes. Et ça, c'était la philosophie ou le sentiment que je voudrais exprimer avec le Fluent Show. Et aussi représenter que comme une femme, tu peux le faire et tu ne dois le faire parfaitement.
Magnifique, oui. De toute façon, je dis aussi très souvent que perfect is boring. Donc, il ne faut pas être parfait. Et personne n'est parfait de toute façon. Il faut faire des erreurs. Et les plus grosses erreurs aussi, par exemple, si on parle d'orthographe, sont faites par des natifs, par exemple. Et ça peut être des hommes et des femmes. Tout le monde fait des erreurs. C'est indispensable. On est obligé de faire des erreurs, pratiquer. Et c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore, parce que si on ne fait pas l'erreur, ça veut dire qu'on ne fait rien du tout. Ça, c'est encore pire.
Et on comprend rien.
Absolument. Absolument. Et donc après, le fait que tu rendes les femmes aussi visibles et que tu leur montres un modèle, bah oui, on peut apprendre des langues, c'est pas quelque chose réservé uniquement aux hommes. T'as créé aussi cet événement qui était génial, Women in Languages. Je sais pas si tu as d'autres projets dans le même dans le même style à venir.
pas encore, mais les c'est très intéressant que tu les poses la question comme ça, parce que pour moi, d'un côté, c'est très important avoir un sens féministe, avoir une identité assez féministe, et de montrer et représenter que comme une femme, tu peux. Et d'autre côté, je pense que comme tous, comme like all of us, tous entre nous,
comme tous,
je pense que ça serait beaucoup mieux si ça serait pas nécessaire. Et vraiment, je représente les femmes ou quelque chose comme ça, je voudrais, mais aussi je voudrais seulement faire mes choses. Et je sais pas encore, dans ce moment, je suis encore dans cette situation que dans où tu ne sais vraiment pas comment ça se forme, la forme finie du projet. Mais pour moi, c'est très important donner une voix aux femmes et aussi donner d'encouragement aux femmes. Et je pense que probablement je voudrais travailler un petit peu avec des profs et des professionals, des personnes qui travaillent avec des langues, parce qu'il faut 10 ans maintenant que j'ai eu ce business, et il y a beaucoup d'expérience, et je regarde, j'observe, can you say that?
J'observe
beaucoup des choses que les femmes font, je l'ai fait aussi, toutes les choses qui te donnent un petit problème quand tu commences un business dans ce champ, in this area.
Ah, très bien. Je vais te recommander un podcast d'ailleurs pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, pour les personnes qui veulent devenir professeurs ou qui sont déjà professeurs de français ou peu importe la langue. Il y a un podcast qui s'appelle L'école des profs. L'hôte du podcast, elle s'appelle Charlène, et en fait, elle aide les professeurs, bon, surtout les professeurs de français, à se lancer, à devenir indépendante, enfin indépendante, c'est féminin et masculin. Et son podcast est super intéressant. Quand moi, j'ai commencé à donner des cours il y a très très longtemps. J'ai toujours fait ça. Mais quand j'ai commencé à donner des cours, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes les gourous du marketing. Et en fait, j'aurais adoré trouver un podcast, un blog ou une newsletter pour pouvoir développer mon business, parce que je l'ai fait, donc ça fait des années que je fais ça, mais j'ai fait 40 millions d'erreurs. Je me suis trompée, j'ai fait plein de choses, j'ai dépensé des sous dans des projets qui n'étaient pas intéressants, j'ai mis en place des stratégies qui fonctionnaient pas, enfin j'ai testé plein de choses, et j'aurais adoré avoir un projet comme le tien ou comme celui de Charlène. Pour, tu vois, devenir entrepreneur dans les langues. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire.
Oui, et ça, tu vois, je vois la relation. Ça me donne beaucoup de passion, beaucoup de joie. quand tu dis, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis trompée. Parce que ça, c'est la relation entre le business ou
l'entreprise,
commencer une entreprise et aussi apprendre une langue, que il y a le problème que quand tu commences, tu voudrais toujours être très très bien, très très bon. Tu veux pas faire des fautes, et tu perds ta confiance quand tu fais des fautes. Et absolument. Tu vois, ça c'est très similaire.
Mm-hmm. Ah, oui.
Très pareil. Pareil. Et pour moi, c'est très intéressant. La psychologie, ça, oh. Ça m'intéresse
beaucoup.
Oui,
bien sûr, absolument. Avant de te laisser partir, je dois te poser une question. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a envie d'apprendre le français ou de parler français?
Ouh, ok.
Un seul conseil, un seul. Hein.
Trouve une personne qui trouve un prof, une prof en ligne ou pas en ligne, ça n'importe pas, avec un son d'humeur qui avec laquelle tu peux rire.
Ouh, très très bon ça.
C'est la vérité et c'est l'expérience de ma vie avec le français.
Il faut rire. C'est vrai que quand on rigole, quand la professeure est de bonne humeur et tout, on a beaucoup plus envie d'apprendre. C'est vrai. Très très bon conseil, Kerstin. Pour les personnes qui veulent continuer cette conversation avec toi ou qui veulent être coachées par toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ou te contacter?
Alors, si vous voulez continuer cette conversation avec moi, en français, ça marche, ou en anglais, ou en allemand, ou bien en gallois aussi. vous pouvez me trouver à Instagram, c'est Kerstin, K-E-R-S-T-I-N, underscore, c'est quoi underscore?
Barre du bas.
Barre du bas fluent, Kerstin. Barre du bas fluent. Ou mon site internet, c'est fluentlanguage.co.uk.
Magnifique. De toute façon, je vais ajouter les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à continuer cette conversation avec Kerstin sur les réseaux sociaux. Kerstin, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est ton premier épisode, ta première interview en français, c'est ça?
C'est ça. Oui, merci.
Je suis tellement contente. Félicitations.
Et maintenant, c'est fini. Yay.
Merci beaucoup.
Merci, Yasmine.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt.